Louwagny. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Virginie Bloch-Lenné rencontre Raoul Peck. Ce soir, de Haïti au Congo belge.
Raoul Peck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur de fiction et de documentaire, un réalisateur responsable, je crois que c'est un mot que vous préférez à engager. Tous vos films sont politiques. Vous êtes aussi producteur, vous êtes votre propre producteur, vous avez votre maison de production. Vous nous recevez dans votre bureau de la FEMIS à Paris. La FEMIS, c'est l'École française des métiers de l'image et du son, une institution publique très sélective que vous présidez depuis 2010. Au printemps 2017 est sorti en France un de vos documentaires, votre dernier documentaire, I Am Not Your Negro, sur le racisme aux États-Unis, sur la lutte pour les droits civiques, sur l'écrivain James Baldwin et sur Hollywood. Le documentaire a été sélectionné aux Oscars en 2016 dans la catégorie meilleur documentaire. Ce sera le sujet de l'entretien de vendredi soir. Son succès public et critique a été important. Baldwin est l'un de vos maîtres, l'autre étant Marx. Vous avez réalisé plusieurs films sur Haïti, où vous êtes né en 1953, donc pendant la dictature Duvalier. Vous avez habité au Congo belge après l'indépendance, à New York, à Orléans, à Berlin avant la réunification. Puisque Raoul Peck, vous ne vivez pas toujours à Paris, vous êtes entre plusieurs pays, et que vous êtes revenu il n'y a pas très longtemps, comment trouvez-vous l'atmosphère de la ville en y revenant ?
C'est une question difficile à répondre parce que je me protège encore un peu. J'essaie de rester dans ma bulle d'écriture puisque j'étais parti un peu plus d'un mois en Haïti pour écrire sur mon prochain projet avec mon co-auteur Pascal Bonitzer. Donc voilà, j'essaie encore de préserver cette bulle de travail et ne pas me laisser dévorer par les tweets quotidiens et les scandales à répétition et les disputes de chapelle, etc.
Raoul Peck, vous êtes né en Haïti. Vos deux parents sont
haïtiens, oui.
Sont haïtiens.
Ouais. Oui, je suis né en Haïti. J'ai grandi une partie de mon enfance en Haïti. Et Haïti a toujours été proche de mon vécu. C'est-à-dire, même en ayant quitté très jeune, à l'âge de 8 ans, mais partout où j'étais, il y avait toujours une petite ou grande communauté haïtienne. Au Congo, lorsque mon père a quitté pour aller travailler avec les Nations Unies au Congo, le nouveau Congo indépendant, suite à la fuite des Belges après l'indépendance, il y avait déjà un petit groupe d'haïtiens qui étaient des amis très proches de la famille.
Que faisaient vos parents
comme... Mon père était ingénieur agronome. Donc, en 1960, puisque le Congo est devenu indépendant en juin 1960, tout de suite après, il y a eu une mutinerie. Donc, la force publique congolaise, mécontent du fait qu'il n'avait pas obtenu de grade, de meilleurs soldes, etc. Puisque les Belges avaient un peu laissé entendre ça, et les politiciens aussi voulaient profiter du changement pour leur propre cause. Et donc le Congo explose pratiquement, et les Belges partent, il y a eu des massacres, des violences. Donc l'ensemble de l'establishment belge quitte le Congo sans avoir préparé la nation congolaise à être sur ses deux pieds. Puisque l'idée, les Belges étaient persuadés qu'ils allaient rester encore 30 ans aux manettes, malgré l'indépendance. Donc c'était une indépendance
De façade.
De façade, quoi. Et donc, le Congo se retrouve sans professionnels, sans, à tous les niveaux. En 1960, il y avait à peine 3 ou 4 Congolais qui avaient fait des études universitaires. Donc, il a fallu, en urgence, trouver des gens compétents. Il y a eu plusieurs délégations des Nations Unies en Haïti, puisque Haïti était pratiquement l'un des rares, sinon le seul avec l'Éthiopie, de pays indépendants avec une bonne formation académique à l'époque, et en plus parlant français, On a eu cette délégation et on a offert à Haïti 400 contrats pour aller travailler au Congo, donc d'ingénieurs, de professeurs, de médecins, etc. Et comme en même temps on subissait de plein fouet la dictature de Duvalier, mon père a perdu son travail dès l'élection de Duvalier. Il était professeur à la faculté d'agronomie en Haïti, à Port-au-Prince, et il est reparti en province pour travailler. Il avait des plantations de café, et donc il s'occupait de ses affaires. Et il a été arrêté une première fois, libéré, puis arrêté de nouveau, puisque sans raison spécifique, puisqu'il n'était pas impliqué politiquement, mais il s'agissait de mettre tout le monde au pas. Donc finalement, il s'est rendu compte que voilà, ça allait mal finir. Mmh. Et donc, il n'avait plus de grand intérêt de rester. Donc, quand ces offres sont arrivées, lui et pas mal de collègues de sa génération sont partis. D'ailleurs, soit au Congo, soit au Canada, au Québec, qui recrutaient aussi des gens,
oui.
Ou aux États-Unis. Donc, et dans des pays comme le Mexique, le Brésil, etc. Donc il y a eu une énorme exode des forces vives du pays, les intellectuels, les médecins, les ingénieurs, les professeurs, etc.
Et vous n'êtes pas parti tout de suite votre...
Non, mon père est parti en 1961, et nous l'avons rejoint en 62.
Et en partant, voilà. Vous avez tout...
Oui, on a tout liquidé. Enfin, je pense que mes parents ont réparti un peu tout ce qu'ils possédaient chez des parents, chez des amis. Mais comme cet exil a duré plus de 20 ans, au fur et à mesure, toutes ces choses-là ont disparu. La vie n'était pas simple pour ceux qui sont restés. Je me rappelle très bien, il y avait des livres de la bibliothèque de mon père qu'il a fallu brûler à un certain moment. Parce que c'était dangereux de les avoir.
Des inspections, parce qu'il y avait des passages.
Il y avait une phase, par exemple, d'anticommuniste aveugle, par exemple. Duvalier, il a toujours su exploiter un peu la folie américaine, c'est-à-dire qu'il fallait empêcher toute infiltration communiste dans la région. Donc, il se faisait payer par les Américains. Donc, régulièrement, il faisait une campagne. Anticommuniste, entre guillemets, donc on pouvait débarquer chez vous, fouiller, regarder quel genre de livre vous avez, et puis voilà, et vous pouvez vous faire arrêter. Il y a des blagues qui circulent, des anecdotes qui circulent là-dessus, puisque très souvent ceux qui inspectaient, c'était des gens pas très éduqués non plus. Mmh. Donc il y a des gens qui ont été inquiétés parce qu'ils avaient le rouge et le noir de Stendhal, où tout ce qui avait le nom rouge dans le titre était suspect. Mais c'est vrai que c'était totalement arbitraire. Il n'y avait pas de règles. Le moindre prétexte servait à intimider la population à tous les niveaux de classe.
Et ce qui arrivait à la personne emprisonnée était arbitraire aussi. Ça pouvait être une libération X mois après l'emprisonnement ou la mort.
Absolument. Il était de notoriété publique, par exemple, si on vous arrêtait et que vous passiez un certain temps au commissariat central à Port-au-Prince, vous avez encore des chances. Mais si on vous envoyait, par exemple, à cette grande prison qui s'appelait Fort Dimanche, qui était pratiquement un mouroir, là, vous saviez que vous aviez une chance sur 100 d'en ressortir, ou même de survivre. Les gens qui arrivaient à survivre plus d'un an à Fort Dimanche, c'était un miracle, quasi. Donc, il y avait plusieurs étapes. Et selon la rapidité avec laquelle on vous envoyait en prison plus loin, votre sort en dépendait. Tant que vous restiez au commissariat central, il y avait des gens qui pouvaient voir que vous êtes là, qui pouvaient faire des appels téléphoniques. C'est ce qui est arrivé à mon père, en fait. Dans les 2-3 jours, il était encore en interrogation au commissariat central de la police. Des militaires passaient, ils l'ont vu, certains ont fait semblant de ne pas le reconnaître, mais ont pu aller dire à mes grands-parents, qui eux avaient des relations, que votre beau-fils est en prison et qu'il fallait faire des démarches, donc ce qui a été fait, et donc c'est grâce à ça qu'il a pu être libéré la première et la deuxième fois.
Et vous avez des souvenirs, Raoul Peck, de la vie quotidienne Jusqu'à vos 8 ans, avant votre départ.
En fait, beaucoup plus que je m'en rendais compte, puisque plus tard, j'ai utilisé des images que j'avais de cette enfance dans certains de mes films. Et ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'elle venait de cette époque.
Des images de maison.
Des images de maison, de situation, de couleurs, de situation. Je me rappelle par exemple très bien l'un des soirs, je ne me rappelle pas exactement lequel de ces soirs c'était, mais en tout cas l'un de ces soirs où mon père justement n'est pas revenu à la maison, ma mère a pris la voiture et m'a mis en pyjama derrière, puisque j'étais encore fils unique, et elle est partie malgré le couvre-feu, ça veut dire qu'il n'y a aucune voiture dans la rue, ça je m'en rappelle très bien. On croise très peu de voitures, sauf des jeeps militaires, et on a été arrêté à des barrages. Et là, ma mère, un peu, je pense, sur la colère de la disparition de mon père, arrivait à passer. Mais je me rappelle de ce circuit qu'elle fait, qu'elle va chez son père, elle va chez ses oncles, etc., pour demander si quelqu'un a vu mon père. Ça, c'est des souvenirs très, très vifs qui me sont restés. Et la hantise du barrage policier, quelque part. C'est quelque chose que, d'ailleurs, dans beaucoup de mes films, il y a toujours un barrage policier ou militaire.
Raoul Peck, à Léopoldville, comment vivait votre famille? Comment vivez-vous? Vous vivez confortablement?
Oui, très confortablement, puisque on nous loge dans les anciennes villas occupées par la bourgeoisie belge, par les fonctionnaires belges, dans des quartiers très propres, avec de beaux jardins. Et on a pour voisin, bien sûr, la nouvelle bourgeoisie congolaise qui commence à trouver ses marques. Donc, plutôt dans un milieu protégé, pas loin, il y avait les troupes de l'ONU qui étaient dans tout un ensemble d'immeubles, pas loin. Donc, il y avait les Canadiens, les Indiens, les différentes nationalités, les Norvégiens, je crois. Et donc, tout ce monde-là était, voilà, se promenait dans les mêmes quartiers. Mais ce n'est pas non plus ce qui a été plus tard le cas partout ailleurs, cette condition d'expat, comme on le dit aujourd'hui. Mon père, par exemple, il a mis un an avant de pouvoir acheter une voiture. Donc on ne circulait pas dans des grandes voitures blanches avec des sécurités pour aller au travail. C'était vraiment la débrouille. Je me rappelle qu'ils prenaient le bus comme tout le monde avec les Congolais. Ils étaient bien payés, etc. Mais il y avait, du fait même aussi de l'origine haïtienne, de l'origine africaine des Haïtiens aussi, il y avait une très grande proximité. Et cette infusion d'une culture différente a aussi modifié la culture congolaise aussi.
Oui.
La mode, puisque les femmes haïtiennes étaient habillées différemment, donc il y a eu une influence par rapport à ça. Même par rapport à la nourriture, il y a des produits que les Congolais consommaient beaucoup moins ou pas du tout, mais que nous on connaissait en Haïti, donc brusquement on a vu ces produits dans les marchés. Par exemple, il y a un fruit qui s'appelle, qui a un légume qui s'appelle l'arbre à pain, que les Congolais ne mangeaient pas du tout. Or, en Haïti, c'est un plat paysan. C'est une sorte de boule verte qui, à l'intérieur, a une chair comme une chair de pomme de terre. Et certains Haïtiens s'en sont aperçus qu'il y en avait dans les arbres, mais que personne ne les vendait. Et donc, quand les Haïtiens ont commencé à consommer l'arbre à pain, on les retrouvait dans le marché maintenant, qui était vendu avec les autres légumes. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça où il y a, parce que c'est au final, c'était un milieu assez réduit.
Oui. Et sans rejet de la part des Congolais, sans rejet des Haïtiens.
Non, ça viendra peut-être plus tard, mais pour d'autres raisons. Mais au contraire, il y a beaucoup de curiosité. Et puis les Congolais eux-mêmes, ils découvrent leur État indépendant, avec toutes les difficultés qu'il y a, les guerres, les coups d'État, etc. Donc c'est vraiment une vie à 100 à l'heure. Beaucoup de choses se passent en même temps. Mais pour nous, enfants, c'était bien entendu beaucoup plus paisible. Oui. Voilà, j'avais des amis de différentes nationalités et avec les jeunes Congolais aussi, donc j'allais d'un groupe à l'autre. Voilà, pour moi, rien n'avait vraiment changé dans ce sens-là. Voilà, on avait des camarades et ils étaient d'autres nationalités et puis c'est tout. Mais on ne voyait pas plus loin que ça.
Est-ce que votre père, Raoul Peck, et votre mère, en arrivant au Congo, se politisent davantage ?
Alors, d'abord, par principe, les Haïtiens sont tous politisés. C'est-à-dire, pas forcément dans un sens de parti, d'être organisé
d'adhésion,
à l'intérieur
oui.
d'un parti, mais on discute beaucoup politique. C'est un passe-temps haïtien de tous les temps. Donc, certainement, je me rappelle de toutes les discussions à la maison, pas seulement de ce qui se passait au Congo, mais aussi de ce qui se passait en Haïti. Puisqu'on était dans une situation où, les années passant, on commençait à percevoir des Haïtiens qui étaient proches du régime de Duvalier.
Qui vivaient au Congo.
Et qui espionnaient pour le compte du gouvernement haïtien, oui.
Ils espionnaient pour que si un jour ces Haïtiens retournent en Haïti...
Non, il y a la notion de propagande. Il fallait éviter que les Haïtiens disent critiquent trop.
Et disent ce qu'ils avaient vécu.
Donc ça se retrouvait à New York par exemple ou à Boston là où il y avait pas mal d'Haïtiens. Dans ces communautés là on savait plus ou moins qui était un possible espion du régime. Mais ça c'est partout, toutes les communautés en exil, que ce soit les Chiliens, les Brésiliens et tout ça, il y a toujours eu des gens qui, parce que vous avez toute votre famille qui reste au pays.
Oui.
Donc eux ils sont menacés.
Et c'était le cas de vos parents avaient leurs parents.
Ah oui, toute ma famille était encore en Haïti. Donc la famille de ma mère et de mon père. Donc même dans les discussions à l'intérieur de groupes d'amis, on regardait avant de parler de certaines choses. Ça, je me rappelle aussi très bien. Parfois, il y avait des conversations à bas mots, c'est-à-dire qu'en chuchotant presque, parce qu'il fallait pas dire certains noms. Surtout que s'il y avait des enfants, pour qu'ils n'aillent pas le répéter. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal, c'est que la dictature vous poursuivait même à l'étranger. Et que le danger restait à l'affût. Et il fallait aussi faire attention à ce qu'on disait, qui on fréquentait, avec qui on parlait et de quoi.
Jusqu'à quel âge, Raoul Peck, restez-vous au Congo avant de partir faire continuer
J'arrive à l'âge de 8 ans. Je crois qu'on repart vers 2 ou 3 ans après, ou 2 ans après, puisqu'il y a des attaques de rebelles, comme on les appelait. En fait, c'était les troupes Lumumbis qui remontaient de l'est du Congo. Et donc, il y avait des peurs qu'il y ait aussi des répercussions à Kinshasa même. Donc, on a été évacués par les Nations Unies.
Et
donc,
vous repartez vers
Donc, on repart... Haïti. Non, on va à New York, puisqu'on ne peut pas rentrer en Haïti, justement. Donc, New York, c'est la dernière étape avant Haïti. Et où se trouve une communauté haïtienne, où j'ai des oncles, j'ai de la famille là-bas. Donc on se retrouve à New York. Et là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on me met à l'école publique à New York, à Brooklyn, sans parler un mot d'anglais, je suis obligé d'apprendre très vite. Et donc mes parents vont repartir au Congo, je pense un an après, et moi, ils décident de m'envoyer en France à ce moment-là. Et j'arrive en France, j'ai 12 ans.
Est-ce que c'est le fait de se séparer de vous, c'est une pratique qu'avaient d'autres cadres haïtiens exilés au Congo?
Oui, je pense que c'est souvent le cas quand dans des familles où les parents soit voyagent beaucoup ou se déplacent souvent. Le fait de changer d'école tout le temps, à un moment donné, à l'époque, d'ailleurs, aller en pension, à l'époque, c'était les familles bourgeoises qui pouvaient se permettre ça. Donc c'est presque quelque chose de bien, même si moi, j'en ai souffert, la première année en particulier, mais c'était quelque chose Parfois, plus tard, on l'a vu comme une punition, qu'on envoie les enfants turbulents en pension.
C'est plutôt une chance, sur le moment.
Là, c'était considéré comme une chance,
un privilège
d'aller dans une bonne école, et voilà, d'être bien suivi. En l'occurrence, c'était une école de jésuites à Orléans. Donc, et j'avais un camarade qui était plus âgé que moi, qui était déjà, donc à travers ses parents, mes parents se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on m'envoie là-bas.
Raoul Peck, vous avez eu le temps d'aimer le Congo en y vivant 3 ans et de vous y attacher.
Oui, parce que ça n'a pas arrêté. Mes parents sont restés 25 ans au Congo, donc j'y étais 5 fois par an. Donc j'ai grandi avec mes camarades, il n'y a jamais eu de rupture sur ce plan-là. Au contraire, j'étais beaucoup plus congolais que haïtien, puisque c'est là qu'il y avait mes parents, qu'il y avait la plupart de mes camarades, autres que mes camarades à l'école. Je n'avais plus aucun contact avec mes anciens camarades en Haïti. Les contacts étaient totalement coupés, même avec ma famille. Donc tout passait par le Congo.
Vous vous intéressez à Lumumba à Patrice Lumumba dès votre adolescence?
Non, pas de manière directe. J'étais au courant de Lumumba, j'étais au courant de Mobutu, de l'armée, puisque on était bombardé tous les jours à la télévision, par la propagande de Mobutu. La place des militaires était prééminente. Donc il y avait aussi des gens qui étaient un peu nos héros. Je me rappelle de ce commandant qui s'appelait Mulamba, je crois, qui était un bel officier, charismatique, etc. Et que voilà, qu'on voyait sur le terrain lui combattre entre guillemets les rebelles, qui étaient des rebelles de toutes sortes. Et c'est vrai que cette propagande marchait, quoi. Mobutu et l'armée passaient pour des gens qui maintenaient la paix.
Et Lumumba? Et quelle était la propagande?
Lumumba avait disparu, c'était presque tabou. On ne parlait pas de lui.
Et donc il n'y avait pas une propagande pour justifier sa
mort. Non, ça s'est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, on a appris son assassinat pratiquement 6 mois après. Ce n'est que 6 ans après que Mobutu, dans une espèce de tentative de récupérer le nom Lumumba, a décrété que c'était un héros national. Mais c'était une manœuvre politique pour se rapprocher des anciens Lumumbis, pour faire une sorte de paix nationale. Il a même tenté de faire revenir la veuve de Lumumba, qui d'ailleurs le connaissait très bien, et qui n'avait pas peur de lui. C'était une femme très simple de la campagne et qui avait connu Mobutu en jeune officier.
En jeune officier inoffensif, apparemment.
Voilà, jeune boursier qui venait chez Lumumba en tant que jeune stagiaire. Et donc voilà, Mobutu ne l'impressionnait pas du tout. Donc elle, à un moment, elle est revenue, puisqu'ils étaient en exil en Égypte avec ses enfants. Et les enfants, eux, sont restés toute leur vie en Égypte, ont fait des grandes études. Aujourd'hui, ils sont revenus au Zaïre. Mais donc il y avait pas mal de gens qui étaient très clairement dans l'opposition à Mobutu, qui croyaient pas du tout dans son discours, d'ailleurs. On savait qu'il commettait des assassinats ou des massacres à différents moments de l'histoire. Mais pour les enfants qu'on était, c'est vrai que ça passait bien sûr au-dessus de notre tête.
Pourquoi vous avez fait, Raoul Peck, 2 films sur Lumumba?
Alors, pour répondre à ça, il faut savoir que le cinéma que je fais n'est pas un cinéma où je prévois particulièrement de m'attaquer à un sujet. Ça part toujours d'un moment défini où je suis face à une réalité et je décide de réagir. Et le premier film que je fais autour de l'histoire de Lumumba, c'est un film donc documentaire, mais il y a toute une histoire derrière qui commence par mon premier film qui est Haitian Corner, qui est un film justement sur Haïti, que j'écris à un moment où la dictature existe encore en Haïti, donc qui est dans un cadre de résistance. je commence à travailler en 85, je crois. Et Jean-Claude Duvalier part en 86. Il est chassé du pouvoir en février 86. Donc, pendant toute cette période, des années 80 en particulier, en fait, ma démarche, c'était de rentrer en Haïti, à l'intérieur d'un groupe, sous un faux nom, pour participer à la résistance. Mon projet en Europe, c'est ça, c'est terminer mes études et rentrer au pays. Donc, pour plusieurs raisons, ça ne se fait pas, mais je reste dans cette trajectoire de résistance. Donc, si je fais du cinéma, je fais du cinéma dans ce cadre-là. Donc, mon premier film, c'est par rapport à une critique du pays à ce moment-là et des conséquences de la dictature. Puisque je rencontre des gens qui ont soit été en prison, qui ont été torturés, etc. Et c'est à travers ces interviews que je décide de travailler sur Haitian Corner. Donc, en fait, lorsque Haitian Corner est sélectionné au Festival de Berlin, des producteurs m'approchent pour me proposer un projet qui se passe en Afrique. Mais comme c'est souvent le cas, d'abord c'est une Afrique, voilà, c'est un continent, et pas un pays. Ensuite, dans un pays qui n'existe pas. Et troisièmement, le héros est un Européen, un Suisse, médecin, qui se retrouve dans ce pays qui n'est pas nommé et qui subit sa descente aux enfers. Et à la fin du récit, il retourne en Suisse, chez lui. Donc c'était un peu le cadre dans lequel on approchait les sujets, les récits sur l'Afrique ou le tiers-monde en général. Bien entendu, ce projet ne m'intéressait pas, mais on a continué à discuter avec ces deux producteurs, dont l'un était allemand, l'autre suisse, et je leur ai dit, voilà, moi ça m'intéresserait éventuellement de développer quelque chose avec vous, mais je ne peux parler que de choses que je sais. Donc le Congo, par exemple. Ensuite, l'approche politique s'est imposée petit à petit. J'ai introduit Lumumba. Et petit à petit, dans le développement des choses, on est passé d'un projet de fiction autour de Lumumba, mais en faisant pas mal de raccourcis par rapport à ce récit, qui en est le héros, puisque à cette époque, financer un film avec des héros noirs était encore plus difficile que ça ne l'est aujourd'hui. En fait, le grand cinéaste africain de l'époque, c'était Jean Rouch. Voilà, Samben est venu un peu après. Donc il n'existait pas grand-chose. Et finalement, j'arrive à pousser le projet vers un projet plus politique. Et à un moment donné, en écrivant ma lettre d'intention pour ce projet de fiction, je raconte un peu ma vie au Congo, et pourquoi le Congo, pourquoi Lumumba, etc. Et je me rends compte qu'en fait, qu'il y avait une histoire beaucoup plus intime, beaucoup plus importante pour moi, qui ne serait pas dans ce film. Et là, j'ai décidé de faire un film différent, documentaire, que je pourrais moi-même produire et diriger. Et j'ai lancé la machine vers une autre direction. Donc, c'est ce qui est devenu Lumumba, la mort d'un prophète.
Je vous remercie, Raoul Peck. À demain soir.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Raoul Peck. À voix nue. Réalisation Clotilde Pivin, prise de son Andreas Jaffré, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.